Entre nous, on se dit tout.
Interview.
Entrevue.
L'hirondelle au champ apporte joie et printemps. Voici le joli dicton que porte en étendard la structure que nous rencontrons aujourd'hui. L'association L'Hirondelle au champ a pour but de préserver la biodiversité dans les milieux agricoles. Sandrine Couvent, cofondatrice de cette association, nous accueille dans sa ferme, un goût d'air libre situé à la Bégutte de Minzrinc. Sabine, bonjour.
Bonjour.
Pouvez-vous nous dire quelles sont les actions que mène L'Hirondelle au champ ?
Oui, avec plaisir. Alors, on mène plusieurs types d'actions. Je dirais que la première, c'est d'accompagner les fermes qui nous sollicitent pour les accompagner dans un retour de la faune sauvage sur leur parcelle agricole. Le fil conducteur, ça va être de prouver aux paysans, aux agriculteurs, que la faune ou les animaux sauvages sont utiles à leur culture et ne sont pas un frein à la production. Parce que souvent dans le monde agricole, on voit la nature comme une contrainte. Comme quelque chose qui pourrait les ennuyer ou diminuer la production agricole. Nous, notre fer de lance, c'est vraiment de prouver que plus la faune est diversifiée et proche des cultures, plus elle est un outil, notamment en termes de régulation, on va dire des espèces qui peuvent poser problème. Je n'utilise pas le mot nuisible parce que c'est vraiment quelque chose de trop fort. Par exemple, je n'utilise jamais non plus le terme d'exploitation agricole. Je trouve, je suis aussi agricultrice et donc la MSA me qualifie d'exploitante agricole et je considère que je n'exploite rien ni personne. C'est un mot qui est tellement fort, donc je préfère paysanne ou cultivatrice ou agricultrice.
Donc vous publiez une gazette qui rapporte vos actions et on apprend aussi dans cette gazette, par exemple, que la belette et l'hermine peuvent être d'une grande aide pour les paysans et paysannes. Comment ?
Oui, donc en effet, ça c'est notre deuxième pôle d'action, d'activité, c'est l'apprentissage, la vulgarisation en fait d'informations naturalistes, puisque moi, dans une ancienne vie, j'ai travaillé en tant que chargée d'études naturalistes auprès d'une association de protection de la nature qui s'appelle l'ALPO, donc j'ai travaillé en tant qu'ornithologue. J'ai eu envie de mettre toutes mes connaissances naturalistes au service du monde agricole que je côtoie maintenant, puisque voilà, j'ai deux métiers, un pied dans chaque panier, on va dire ça comme ça. Mais donc pour retrouver ta question, les petits mustélidés, la belette et l'hermine sont très utiles parce que ce sont des grandes prédatrices et régulatrices du campagnol. Et le campagnol pose beaucoup de soucis dans les cultures, évidemment, surtout chez les maraîchers. Et la petite belette, eh ben, elle est tellement bien profilée qu'elle rentre dans les galeries de campagnol et c'est sa proie de prédilection. Elle se nourrit exclusivement de campagnol. Donc elle est liée aux populations de campagnol. Et les populations de belettes grandissent en même temps que les campagnols, qu'elles régulent. Et dès que le campagnol rechute, pour X raisons, elles se dispersent ou meurent. Voilà. Donc c'est quand même, quand on sait ça et quand on voit deux, trois belettes dans ces champs, c'est quand même spectaculaire. Elle est là pour aider. Moi, je trouve ça totalement magique. Mmh. Donc la gazette sert à apprendre à reconnaître une belette, comme je disais, mais à savoir comment elle vit, comment elle fonctionne. Et surtout, il y a un dossier pratique dans la gazette, comment faire venir ces espèces sur mes parcelles. Comment faire des pierriers ou des abris utiles aux belettes pour que non seulement elles viennent s'installer sur les parcelles, mais en plus, comment elles vont venir s'y reproduire et y rester durablement pour devenir un véritable allié des paysans. Et ça, quand on connaît peu les espèces, on a du mal à se mettre dans leur écologie ou dans leur vie, on va dire, de quoi elles ont besoin, de quoi elles se nourrissent, quels sont leurs prédateurs. Donc voilà, j'ai eu envie de mettre tout ça dans un accès facile aux agriculteurs.
Les aider à faire un pas de côté aussi par rapport à leurs pratiques. Et donc vous le disiez, vous accompagnez gratuitement des paysans dans la restauration de la biodiversité. Concrètement, quelles sont les étapes de cet accompagnement ?
Juste, je rectifie, c'est pas totalement gratuit. Maintenant, on demande une participation pour les frais de déplacement, frais d'impression des documents, ce qui est assez dérisoire. C'est de l'ordre entre 150 et 300 euros selon les surfaces, parce qu'on aura plus on a de surface, plus il y a de kilomètres à parcourir. Le reste du financement, on les trouve auprès de financeurs, de mécènes. Donc voilà, un diagnostic va coûter entre 3 et 5 000 euros en temps de travail, puisqu'on est deux salariés à travailler dessus. Et ça consiste à partir vraiment de la problématique des paysans en fonction de leur culture. Quels sont les soucis qu'ils rencontrent ? Prenons l'exemple d'un maraîcher qui va avoir des soucis de campagnol parce qu'il passe en non-travail du sol, donc en couverture végétale. Nous, on va essayer de voir sur sa ferme qu'est-ce qui est déjà en place pour lui permettre de trouver lui-même des solutions. Donc, quelles sont les structures qui favorisent tous les prédateurs du campagnol ? Est-ce que ces structures sont présentes, absentes ? Comment ? Où ? Donc voilà, on tire tous ces petits fils en fonction vraiment de la ferme, des besoins aussi, ou des envies. Ça peut ranger le cas d'agriculteurs, leur ferme est, je dirais, exemplaire. Ils sont déjà en agroécologie, ils ont déjà fait beaucoup, mais ils ont envie de faire encore mieux. Donc on les accompagne pour faire venir peut-être encore plus d'espèces, voir si c'est possible. C'est pas forcément non plus possible, mais ça peut l'être. Et dans ce cas, on va installer des zones humides, on va installer des mares qui leur serviront peut-être juste à amener quelque chose d'esthétique, de beau, de poétique sur leur ferme, ce qui est quand même aussi très intéressant. Donc voilà, il y a tous les cas de figure, et nous, notre accompagnement, il va jusqu'à donc, faire des propositions concrètes d'aménagement, de poser des perchoirs, des nichoirs, créer des pierriers, créer plein d'aménagements pour les petits musténidés dont je parlais.
Et les mares qui sont aussi utiles pour aussi la biodiversité.
Alors là, c'est le summum, puisque tu recrées quasiment de la vie, puisque tu fais venir des amphibiens, des libellules... Tous les animaux, on est en zone méditerranéenne, viennent boire dans ces mares, ça fait un abreuvoir pour les chauves-souris. Donc quand on pose une zone humide, selon la taille, on active beaucoup de vie derrière, donc ça c'est très intéressant. Et ensuite, on réalise nous-mêmes ces aménagements. Et bon, la nouveauté, c'est que on va demander quand même aux paysans de participer aussi à un minima, donc notamment dans la construction de nichoirs, etc. Je me suis aperçue que de tout faire, ce n'était pas forcément la meilleure solution, mais ils vont être de plus en plus acteurs. Oui. Il fut encore il y a un an ou deux, je faisais beaucoup avec les adhérents, on arrivait en faisant des chantiers vraiment clés en main. Maintenant, on passe à une formule plus... on participe tous ensemble et aussi au financement. Donc moi, un de mes boulots, c'est aussi d'aller chercher des financements, parce que ça coûte très cher. Un perchoir, ça peut coûter jusqu'à 15 euros. Un nichoir, 80 euros, selon l'espèce. La pose, c'est mon temps de travail. L'autre salarié, les bénévoles, organiser les bénévoles. Donc ça, c'est... Donc maintenant, je le chiffre aussi pour qu'ils sachent combien ça coûte. C'est important. Et ils donnent ce qu'ils veulent, ce qu'ils peuvent. Et je vais chercher le complément d'argent auprès de mécènes. Donc l'implication, elle est d'autant plus forte quand on sait combien ça a coûté, qu'on y a participé, qu'on a fait tous ensemble. Donc ça, c'est des notions qui sont importantes. Ce qui veut dire que j'accompagne les fermes pendant plusieurs années sur le long terme. Donc ils m'ont sur le dos pendant plusieurs années.
Vous venez vérifier.
Et en plus, derrière les diagnostics, les aménagements, on fait aussi ce qu'on appelle un suivi des aménagements. On est en cours sur plusieurs fermes, où on propose derrière tout ça d'améliorer tout ce qu'on a déjà fait en fonction de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché.
Et c'est des expérimentations constantes aussi.
Tout à fait. Oui, on apprend en permanence. C'est la leçon de la nature. On sait des choses, mais on ne sait pas tout.
Et combien de paysans et paysannes vous accompagnez par an environ, si vous pouvez donner une fourchette ?
Chaque année, on va dire que c'est trois fermes ou trois nouvelles fermes qui sont accompagnées d'une manière ou d'une autre. Ça demande déjà beaucoup de travail, sachant, comme je l'expliquais, les fermes qui ont déjà été accompagnées, on ne les laisse pas seules ou sur le côté du chemin. Donc là, j'arrive à une quinzaine de fermes accompagnées.
Et est-ce que vous pouvez donner un ou deux exemples de fermes que vous avez pu accompagner sur le territoire du Elfie-Bourdeaux ?
Oui, alors en effet, je suis vraiment concentrée sur deux communautés de communes, c'est important de le repréciser, donc du Elfie-Bourdeaux, comme vous le disiez, mais aussi Montélimar, bon, ça a fusionné avec Marsanne, donc on reste vraiment sur la vallée du Jabron et du Roubion, c'est là où je me sens le plus pertinente, j'ai pas envie de faire beaucoup de kilomètres par rapport au réchauffement climatique aussi. Et je dirais que j'ai accompagné depuis le début, la première ferme qu'on a accompagnée, c'est un maraîcher, Valérie, je peux le citer, Valérie Martineau, qui est à Saint-Gervais-sur-Roubion, qu'on continue à accompagner cette année en améliorant les aménagements sur les petits mustélidés notamment.
Et lui, c'est une ferme
en maraîchage. Oui, petite ferme, 3 hectares, mais qui devient vraiment une oasis pour la faune. Mais c'est vrai que du coup, qui peut appeler beaucoup d'espèces chez lui, puisqu'à côté, malheureusement, c'est l'agriculture intensive chimique, donc désert absolu. Voilà, labour profond, reprise de labour, donc là, c'est assez spectaculaire. Les espèces sont chez lui, les long du cours d'eau. À côté, un de ses voisins, on a accompagné Antoine Gontard, qui, pas très loin, en vol d'oiseau, puisqu'ils ont la rivière... une rivière entre deux, ça c'est bien, il y a une espèce de corridor écologique. Lui, il est en élevage, en poule de chair, oui. Et en brebis aussi, allaitante. Donc ça, c'est encore un autre projet. Donc là, on a vraiment insisté sur les espèces qui régulent les insectes, qui sont amenés à embêter un petit peu les brebis. Puis une autre ferme à Bézaudun-sur-Bine, par exemple, chez Leslie Guillaumard ou chez Michael Cardio. Ils sont également en maraîchage, mais c'est un lieu assez magique, c'est au pied des Trois Becs, donc en diversité de faune, on est un petit peu sur le haut du panier. Donc là, on est un cas de figure où on rajoute des petites choses, mais c'est déjà très très bien. Mais ils avaient envie encore de faire mieux, d'accueillir encore plus d'oiseaux notamment. Donc on a rajouté des aménagements pour la huppe faciée par exemple. Ils avaient envie éventuellement de la voir s'installer sur leur ferme. Mais beaucoup, on a insisté pas mal sur les chauves-souris, ils sont en maraîchage, donc les chauves-souris régulent à la tombée de la nuit beaucoup d'insectes qui peuvent être ravageurs sur les cultures. Donc voilà, on a mis pas mal de nichoirs à chauves-souris. On a tenté les hirondelles, très difficile de les faire revenir. Donc on a fabriqué des nichoirs pendant le confinement avec de l'argile. Et donc on en a collé sur tout leur bâtiment. Ça les met en tout cas dans une situation de se sentir à l'aise. Et elles peuvent être amenées à construire des nids à côté de nos nichoirs.
Ouais.
Voilà, donc ces petits clins d'œil, comme je disais, ça marche pas forcément tout le temps, mais c'est ça qui est drôle. Parce que les premiers nichoirs, je les ai payés très cher, commandés sur catalogue, etc. Et voilà, ils ont construit juste à côté, ils n'ont jamais utilisé les nichoirs à 150 euros. Maintenant, je les fais moi-même, vite fait, bien fait, une planchette, trois clous, de l'argile.
Elles ont fait un pied de nez complet.
C'est super. Et l'important, c'est qu'elles s'installent. Et le retour, bon, l'hirondelle, en plus, c'est notre symbole. C'est un oiseau insectivore qui, dont la survie est grandement menacée, puisqu'en plus elle est migratrice, donc son séjour en Afrique se passe en général très mal, l'assèchement des zones humides en Afrique, les tornades de sable au Sahara. Donc quand elle est ici, moi chaque fois que je vois une hirondelle, j'ai un pincement au cœur, c'est un vrai miracle qu'elle puisse revenir, et elle souffre de l'agriculture intensive ici, puisqu'elle ne trouve plus d'insectes. Donc s'installer ici, revenir sur des fermes, elle s'est à nouveau installée chez Antoine Gontard, ça faisait 10-15 ans qu'il ne l'avait plus vue. Lui, il est passé en bio, son père ne l'était pas. Donc c'est aussi une agriculture qui évolue sur des plus petites parcelles, des projets plus écologiques, il faut le dire. Et voilà. Et les espèces répondent très bien, hein, ça c'est... Mais il faut leur laisser du temps, de l'espace, un petit coup de pouce.
Oui, et puis lui avait vu vraiment nettement la chute de la biodiversité au niveau des hirondelles.
Oui, par exemple. Ça c'est quand même tellement facile à observer. Elles sont là, elles ne sont plus là. À un moment, elles ne reviennent plus, alors qu'elles viennent nicher tous les ans au même endroit où elles ont mis au monde leurs petits poussins, et elles reviennent là où elles sont nées. Donc si elles reviennent plus, et c'est qu'il s'est passé, il s'est passé quelque chose quelque part.
Ouais,
donc
ouais.
Ça s'embrasse. Ouais.
Et puis ça nous remet un petit peu, restit dans le contexte vraiment mondial de la question de l'environnement également. Et ça m'amène justement à cette question de comment est née l'Hirondelle au champ, de quelles ont été les motivations à l'origine de la création de l'association.
C'est une petite anecdote, c'est que j'ai toujours voulu créer une zone humide sur ma ferme, et puis j'en parlais à une entreprise pour qui je vends des pétales de roses. Et voilà, je disais, ah, ce serait tellement bien si on créait des zones humides partout, on ferait revenir la faune, la biodiversité. Et je rencontre le PDG qui vient faire une séance de récolte de roses, distillation sur ma ferme. Et il me dit, bon, tu veux combien pour faire ça? Bon, j'avais rien chiffré, je lui fais au moins 10 000. Parce qu'il faut toujours trouver, donner un chiffre. Au moins. Et trois semaines plus tard, j'avais un chèque de 10 000 euros dans ma boîte aux lettres en mettant avec un petit post-it « Merci de me faire un reçu ».
Sans, vous ne vous y attendiez pas du tout.
Non, je ne m'attendais pas que ce soit aussi facile de trouver 10 000 euros. Donc j'appelle, je vous passe tous les détails, mais en fait, en tant qu'entreprise, je ne peux pas recevoir 10 000 euros d'une autre entreprise. Il fallait que je change le régime fiscal. Mais la solution, c'était de créer une association, de recevoir ces 10 000 euros en don, de lui faire un reçu, ce qui l'intéressait, ce qui pouvait défiscaliser au niveau, lui, de ses impôts. Et de faire cette mare. Et je l'ai invité, on a fait une mare ensemble, j'ai trouvé un autre mécène. Et l'idée, ça a été de se dire, mais si ça marche ici, ça sert d'exemple, et pourquoi ne pas le faire avec d'autres mécènes ailleurs? Et ça a été vraiment la porte d'entrée, l'élan, et ça, c'était 2015. Et depuis, voilà, j'ai eu de nombreux chèques, pas autant, mais presque.
Et vous avez aussi donc, de nombreux bénévoles qui viennent prêter main forte. C'est ça, comment est-ce que tout ça s'articule?
Nombre d'adhérents, on est autour de 70, mais ils ne sont évidemment pas tous actifs. Ils nous soutiennent en tant qu'adhérents financièrement à différents niveaux. Et le noyau dur est autour d'une dizaine de personnes qui viennent pour les chantiers biodiversité, certes, mais aussi pour la pépinière. Et voilà, et après, tout un... les mécènes, bon, c'est les mécènes très classiques qui soutiennent, qui sont dans le cadre, enfin, qui soutiennent tous les projets en environnement. On a tous les mêmes. La difficulté, c'est qu'en général, ils soutiennent 3 ou 6 ans. Et ensuite, ils arrêtent. Voilà. Et moi, le cœur de mon métier, de mon emploi, c'est d'aller chercher des sous, de gérer les adhérents. Donc, voilà, tous les 3 ans, je perds un mécène qui... Voilà, Fondation, par exemple, Nature et Découverte, nous ont donné à peu près 15 000 euros. Maintenant, c'est terminé. Donc, voilà, c'est autant de sous à aller chercher. C'est une grosse somme. On a un budget de 30 000 à peu près. Donc, c'est la moitié du budget. D'où l'idée de cette pépinière de se passer au maximum du mécénat privé.
On peut parler un peu plus de cette pépinière qui a ouvert il y a quelques jours à peine. Donc, de quoi s'agit-il?
C'est une idée très simple qui est venue en parlant avec une amie qui travaillait dans une jardinerie, mais qu'on peut citer, qui s'appelle Gamme Vert, et qui était amenée à me donner quelques plantes qu'elle récupérait de cette jardinerie en me disant « mais on en jette beaucoup ». Et là, j'ai découvert que toutes les jardineries, une fois que c'est un peu fané, qu'il faut de la place, que la saison change, tout partait à la poubelle. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce délire? Et je lui ai dit, écoute, je veux rencontrer ton gérant, je lui propose un partenariat, il me donne les plantes, moi je les remets en état, on les revend, moi je gagne un peu de sous, qu'est-ce que t'en penses? Elle me fait, ça marchera jamais, Gamme Vert, ils sont pas réputés pour être très intéressés par l'écologie pour l'instant. Je fais, c'est pas grave, je prends quand même son contact, j'essaye d'avoir rendez-vous, mail, etc. Et son gérant, un charmant jeune homme, me dit, ok, on fait un essai. Pendant un an, on a fait un test avec le magasin donc, de Pierre Latte, et ça a très bien fonctionné, parce que l'enjeu, c'est que dès qu'il m'appelle en me disant, voilà, on a rempli des chariots de plantes, maintenant tu as 48 heures pour venir les chercher, c'est parce que nous, on les arrose plus, on les a sortis. Donc j'envoie une équipe, j'ai des gens qui font des transports, donc en 48 heures, il faut aller chercher les plantes, on prend rendez-vous, ils les ramènent sur le lieu, donc qui est autour de ma ferme, cette pépinière. Une autre équipe de bénévoles les récupère, les remet en état, arrosage, on taille, on trie. Et une autre équipe s'amuse à les mettre en vente, à organiser des événements autour de ces plantes, à les proposer à des jardiniers, et voilà, et le projet est né. Ça fait 2 ans que la pépinière de l'Hirondelle fonctionne. Et...
Eux, quel est l'intérêt qu'ils ont trouvé justement à faire ce partenariat avec vous? Parce qu'on pourrait se dire que, non pas que ça fait de la concurrence, mais vous vendez aussi donc, les plantes.
Non, je pense pas qu'on rentre en concurrence, parce qu'on est vraiment tout petit, on ouvre une après-midi par semaine, c'est tous les jours, c'est des gros, ils ont un gros chiffre d'affaires. Leur intérêt, je pense que c'est d'être un peu dans l'air du temps du recyclage, parce que bientôt, en plus, ce sera une obligation, ils ne pourront plus jeter du vivant. Ils sont facturés à l'enlèvement de la benne, donc moins on remplit vite la benne, moins on paye. Et surtout, je fais des reçus en termes de dons. C'est des dons en nature, comme s'ils me donnaient dans les supermarchés quand ils donnent des yaourts, etc. C'est pas un don complètement offert, si tu veux. Il y a une défiscalisation. Et nous, on récupère une matière première qui, en plus, je dirais, l'intérêt de ce projet, c'est vraiment de solidariser les adhérents autour de quelque chose qui ait vraiment du sens. Prendre soin des plantes. On se réunit tous les mardis, même vendredi après-midi pour en prendre soin. C'est animé par une stagiaire en service civique qui leur apprend quelle est la plante, comment on va faire. On accueille aussi des enfants pour s'en occuper. Donc tout se file autour du vivant, prendre soin, arrêter le gaspillage, remettre dans un cycle, reproposer à des jardiniers qui n'ont pas forcément trop de moyens, qui se retrouvent à acheter des plantes finalement très peu chères.
Oui, des particuliers
des
aussi.
Particuliers, oui. Donc là, tu disais qu'on a ouvert depuis quelques jours. C'est quelques semaines, en fait. C'est 2 mois. Et voilà. Donc tous les mercredis après-midi, c'est ouvert sur la ferme Un Goût d'Air Libre, qui est la mienne, à la Mégune de Mazin. Dès qu'il fera un petit peu trop chaud, autour du 15 juin, on passera au mercredi matin et au samedi matin. Voilà. Et avec des grosses journées le dimanche, 15 mai, on va faire une grosse fête aussi autour de ce projet, autour de nos projets en biodiversité.
Oui,
parce que voilà, il nous faut aussi des sous pour financer ce projet, puisqu'on monte une serre bioclimatique, voilà, mais qui est auto-financée par l'association grâce aux ventes des plantes. Donc pour l'instant, on est largement déficitaire, mais ça nécessite des investissements. On aura 40 mètres carrés de vente de plantes d'intérieur ou fragiles.
D'accord. Et donc tout à l'heure, vous l'avez évoqué, il y aura un événement le 15 mai. Donc en cette période de retour du printemps, quelles sont les actualités de l'Hirondelle au champ?
Oh ben, la grosse actualité, c'est cette journée du 15 mai, puisqu'on fait une grande fête de 10h à 17h autour de la pépinière, bien sûr, la pépinière sera ouverte. Et conférence sur la vie du sol avec Céline Basset de la ferme Blue Soil à Diolfi, et oui, conférence sur la permaculture avec Alain Flacher de l'association Graines d'Ortie, qui est un jardin associatif.
Oui, situé à Diolfi.
Situé à Diolfi, donc les partenaires locaux et amis, voilà. Mais on fait aussi des moments de reconnexion à la nature par la musique. Donc on aura une harpiste, un accordéoniste qui va venir faire des petits ateliers de ressourcement. Le fil conducteur, c'est la nature, la biodiversité, ce qu'elle nous amène, le bien-être. Évidemment, on va présenter toutes nos actions en photo, ou pas que, parce qu'on va présenter les aménagements qu'on installe, les nichoirs, les abris, les perchoirs, tout ça sera visible.
Et que de nombreuses activités.
Tout à fait, tous les stagiaires seront là. Les paysans qu'on accompagne seront sans doute présents, un tour de rôle pour témoigner de ce qu'ils vivent avec nous, de comment ils appréhendent au mieux la biodiversité. Il y aura des photos d'espèces. On vendra aussi des nichoirs, puisqu'on a un atelier nichoir, où on fabrique maintenant nos abris et nous-mêmes pour les oiseaux et les mammifères. Quand je dis mammifères, c'est chauves-souris, hérissons et les belettes, voilà, la fameuse. Voilà. Donc on en aura à la vente aussi, et surtout on expliquera bien aux gens comment les installer avec l'expérience qu'on a. Peu de gens le savent, mais c'est très important de se dire pourquoi on met des nichoirs, parce qu'il n'y a plus de vieux arbres, il n'y a plus d'arbres à cavité. Dès qu'un jardinier voit un arbre avec un trou de pique, par exemple, se dit « mon Dieu, il va s'écrouler sur ma tête ». Donc l'arbre est abattu, les vieux arbres, on a l'impression qu'ils ne servent plus à rien. C'est une grave erreur écologique, parce qu'un arbre, plus il est vieux, plus il porte de biodiversité. Tous les 10 ans, un chêne multiplie quasiment par 0,5 sa biodiversité, sa présence en insectes notamment. Souvent, on me dit « oui, mais un vieil arbre, il ne capte pas autant de CO2 ». C'est prouvé que non, un arbre gigant, un chêne magnifique de 300 à 500 ans, il capte énormément de CO2. Il abrite une biodiversité phénoménale, donc il n'y a aucune raison de le mettre à plat. Et un arbre n'a pas une... Enfin, la durée de vie d'un arbre, c'est très long, en fait. Ça dépasse, nous, notre capacité. Donc, quand je vois des gens mettre à plat un arbre de 60 ans, c'est une grave erreur, je pense. Mmh. Et on mériterait d'en avoir beaucoup plus. On se passerait de nichoir, voilà. Parce que grâce aux pics, il y aurait des trous dans les grands arbres et donc des espaces pour les espèces.
Et on laisserait les arbres vivre leur cycle de vie.
Ouais. Il y avait François de Terrasson qui disait « laissons vivre les arbres morts ».
Également, vous avez coutume à la fin de votre gazette de donner des ressources à lire. Alors, est-ce que vous auriez pour finir quelques livres que vous recommandez à celles et ceux qui ont envie d'en apprendre un peu plus encore sur la préservation de la biodiversité ?
Oui, avec plaisir. Moi, j'ai beaucoup aimé, mais un livre qui est très connu sur la vie secrète des arbres, qui est un forestier allemand qui parle avec amour de la vie secrète des sous-bois. C'est vraiment bien, on se met dans la peau d'un chevreuil, d'un oiseau. C'est très intéressant. Il parle beaucoup, il insiste sur la communication entre les arbres, la manière dont un arbre va soutenir un arbre vieillissant, lui amenant des éléments minéraux par les racines. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Dans le même ordre d'idée, on a présenté un autre arbre d'un Italien, Stefano Mancuso, qui travaille sur l'intelligence des plantes. Donc, je vous invite vraiment à le découvrir. C'est aussi vulgariser ce que lui, il est biologiste, il travaille en laboratoire sur comment communiquent les plantes, comment elles interagissent. Ça change notre vision du monde sur les plantes. Elles ne se déplacent pas. Mais je pense qu'on a tout à apprendre sur la manière dont elles interagissent avec leur milieu, elles communiquent, elles ressentent les choses. C'est passionnant et c'est très facile à lire à chaque fois qu'on présente un livre dans la gazette. Et tous ces livres sont vraiment très faciles. D'abord, ce n'est pas des livres scientifiques, on apprend énormément de choses et toujours dans une approche qui, moi, m'importe beaucoup, qui est le sensible.
Prenons note, en tout cas, de ces conseils de lecture. Sabine, merci de nous avoir accueillis aujourd'hui sur votre ferme pour nous présenter l'association L'Hirondelle au champ. Il ne nous reste plus qu'à lui souhaiter bon vent.
Radio-la.media.